grand dialogue
sigika foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigika foba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Nous sommes vendredi et c'est le Forum de la presse. Quatre sujets d'actualité ont retenu notre attention. Il s'agit du renouvellement du mandat de la MINUSMA par le Conseil de sécurité de l'ONU, de l'arrestation de Mohamed Ag Wadoussen par les forces de sécurité maliennes, du sommet de l'Union africaine et de la hausse du prix de l'électricité pour les grands consommateurs. Nos confrères journalistes qui sont là, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yoroso de l'Inter de Bamako et Yuba Konate du Zénith Balé sont donc nos invités. Vous avez Sira Bachilo au micro et Noum Djiré assure les opérations techniques. Studio Tamani. Chers confrères, merci de votre présence. Premier thème de ce débat, le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le Conseil de sécurité, priorise les négociations. On parle de la mise en place effective du cantonnement des groupes armés, la protection des civils et le retour de l'administration dans le nord. Le déploiement est attendu pour la fin 2014. Nous écoutons à propos Aminata Dramane Traoré.
Je ne suis pas déçue ni surprise. Je me dis seulement, nous devons aujourd'hui démystifier la communauté internationale. L'enseignement que nous devons tirer de cela, voyons d'abord à quoi servent les casques bleus dans des situations comme les nôtres. Moi, j'ai jamais fait confiance au Conseil de sécurité des Nations Unies de toute façon. Si la MINUSMA et Serval avaient joué leur rôle, moi je crois qu'on aurait pu vraiment éviter cette situation. Que les Nations Unies doivent l'entendre, que les Nations Unies, c'est une structure fondamentalement injuste compte tenu de la manière dont les résolutions sont adoptées. Ces résolutions, ce n'est pas des pays comme les nôtres qui définissent le contenu des résolutions. L'ONU de toute façon, a changé de mission. Elle n'est plus dans le développement qui aurait pu nous mettre et le nord de notre pays et le sud à l'abri de cette situation que nous traversons. L'ONU n'a pas joué son rôle. L'autocritique se fait à d'autres niveaux. Nous devons critiquer le système à la lumière de ce qui se passe chez nous. Et cette occasion soit l'occasion d'apprendre pour notre gouvernement et de faire savoir ce qui se passe dans ce type de situation.
Alors, Célia Dalmeida du journal du Mali.com. Le Mali voulait quand même une MINUSMA plus offensive et plus combative contre les groupes armés. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas passé à l'ONU. Quelle appréciation faites-vous de cela? Est-ce une déception?
Merci Syrah, bonsoir à vous, bonsoir aux confrères et bonsoir aux auditeurs. Une déception, je vais être aussi prudente que Madame Aminata Dramane Traoré pour dire que en fait, je ne suis ni déçue ni surprise. Comme dirait quelqu'un, aucun des deux, parce que il fallait s'y attendre de toutes les façons. Depuis le déploiement de la MINUSMA, c'était ce schéma-là qui est celui que nous voyons. La MINUSMA qui fait des patrouilles pour rassurer la population, mais la MINUSMA qui ne protège pas les militaires maliens quand ils sont attaqués à Kidal. Voilà. Donc je pense que c'était assez clair dès le départ que c'était dans ce mandat-là que la MINUSMA s'était posée. Et maintenant, bon. L'État malien attend quelque chose. La communauté internationale a son agenda également. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Ouais. La communauté internationale a son agenda. Donc c'est peut-être à l'État malien aussi de se donner les moyens d'arriver aux objectifs qu'il s'est fixés.
Alors Yuba Konate du Zénith Balé, quel est votre avis là-dessus? Êtes-vous déçu également ou bien?
Oui, en tant que malien, certainement déçu. Mais je voulais aussi ajouter, aller un peu dans le sens de Mme Aminata Dramane. Effectivement, il faut d'abord dans ces problèmes-là que les Maliens comptent d'abord sur eux-mêmes. Il va falloir que l'on compte d'abord sur nous-mêmes. Les Nations Unies sont là pour nous accompagner. Et ce rôle, vous l'avez vu, le renouvellement du mandat n'a pas changé. Le mandat n'a pas changé dans sa forme et dans son fond. C'est-à-dire que les nombres de militaires qui sont alliés au Mali restent les mêmes. Le mandat reste presque les mêmes, accompagner l'administration. Mais dans la pratique, dans la réalité, c'est tout autre chose que nous voyons. Donc, il va falloir que nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Puisque après les événements de Kidal, les derniers événements de Kidal, les données ont considérablement changé. Et si on devrait rester que sur cette défaite militaire-là, moi, je pense que ça va être très compliqué pour nous. C'est vrai, tout le monde est là, même désormais les autorités, tout le monde est d'accord qu'il faut aller au dialogue. Moi, je dis oui, je veux qu'on aille au dialogue. C'est vrai? Tout le monde est unanime, il faut aller au dialogue. Mais si on doit aller au dialogue à partir des positions que nous avons, tout le monde sait que nous partons défavorisés. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la défaite de Kidal est la fin de l'armée, de la logique militaire, si je peux m'exprimer ainsi. Non, Kidal reste une défaite. C'est une défaite de l'armée malienne. Et je pense que les militaires, en son temps, l'ont dit. Ils ont tiré les enseignements. Et il va falloir, je ne préconise pas qu'on aille à la guerre, non. Mais on ne peut pas rester sur la défaite de Kidal. Si on reste sur la défaite de Kidal, ça va être très, très, très compliqué. Puisque ceux qui sont en face sont revigorés à bloc. Ils se disent qu'ils ont désormais, ils peuvent prendre le dessus sur l'armée malienne à tout moment. Ce qui n'est pas vrai. D'accord. Nous avons une armée en reconstruction, c'est sûr. Il va falloir mettre... Et moi, je pense qu'à ce niveau, il va falloir qu'on passe à une autre vitesse. Parce que le rythme que nous avons ne marche pas.
Alors, Yoroso de l'Inter de Bamako, est-ce votre avis également? Vous êtes déçu ou pas?
Très déçu parce que la montagne a accouché d'une souris. Les autorités maliennes, aussi bien que les Maliens, et une partie de la communauté internationale voulaient un mandat musclé. Mais malheureusement, la résolution a été votée. Comme Yuba l'a dit, on est revenu à la case départ. Donc rien n'a changé, sauf on pousse les autorités maliennes à aller aux négociations. Si on doit aller aux négociations, il y a les préalables. On ne peut pas laisser les groupes armés se pavaner sur le territoire et que l'armée malienne est cloîtrée quelque part. Ça ne peut pas continuer. L'objectif aujourd'hui, quand même, devrait être le cantonnement et le désarmement des groupes armés et aussi... Dans cette résolution,
On en parle aussi, hein? L'ONU en a parlé.
Timidement. Parce que la pression est sur le Mali qui est sur les groupes armés. Donc on est en train de réactiver les réseaux quand même pour pousser le Mali vers les négociations. On dit que c'est début juillet en Algérie. Mm-hmm. Donc c'est tout le monde qui est maintenant sur Alger. Et on oublie le redéploiement de l'armée à travers le territoire. Ça ne peut pas continuer. Moi, je voulais quand même qu'on donnait une autre mission aux forces de l'ONU, qu'elles se mettent aux côtés du Mali pour combattre les groupes armés.
Mais vous pensez que le calendrier qui a annoncé est tenable, selon vous, pour les négociations, début avril, début juillet, c'est possible à Alger?
Oui, les préalables sont là, le gouvernement est d'accord, les groupes armés sont d'accord, et les facilitateurs, parce qu'il y a plusieurs qui sont en jeu aujourd'hui. Donc tout le monde est d'accord qu'un premier pas sera fait à Alger à partir de juillet. Espérons que les uns et les autres se donnent la main pour qu'on puisse revenir à une paix durable.
On le souhaite quand même. Célia, l'appel est également lancé aux États membres par les Nations Unies pour achever le déploiement des 12 000 hommes qui doivent être sur le terrain. Quelle est votre appréciation sur ce point?
Aujourd'hui, ils sont à 8 000. Ça ne gère pas le problème. Je ne sais pas si c'est à 12 000 qu'ils vont y arriver. Moi, ma petite inquiétude par rapport à ça, c'est que nous sommes en train d'aller vers un schéma opération Licorne ou MONUSCO. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est ça mon inquiétude. C'est cette installation-là dans la durée, avec un mandat qui ne leur donne pas vraiment les moyens de, en fait, intervenir comme le pays en a besoin. Et voilà. Ma préoccupation est à deux niveaux. Premièrement, comme les confrères comme Yoro et Yuba l'ont dit tout à l'heure, c'est que il faut qu'on appelle les poules des poules. Nous sommes dans une situation où le Mali est fragilisé par cette fameuse défaite de Kidal et on pousse le Mali à aller négocier. Vous allez négocier en position de faiblesse. On vous met en face quelqu'un qui, comme Yuba l'a dit, se sent convaincu de son fait. Aujourd'hui, qui reprend de poids de la bête sur le plan diplomatique, en train de se promener dans le monde entier pour faire entendre sa voix. Bon, en face, on a un État à qui on dit, écoutez, toutes les manières, vous allez devoir négocier parce que voilà, la situation de fait, elle est là. Et puis, on ne veut pas la guerre parce que de toute façon, en cas de guerre, on n'est pas de votre côté parce que c'est ce qu'on a vu à Kidal. En cas de guerre, on n'est pas de votre côté, on ne vous soutiendra pas. Ouais. Voilà, donc qu'il soit 8 000, qu'il soit 10 000, 12 000, 20 000 ou 25, si quand le Mali est attaqué, on ne peut pas nous défendre. Je ne vois pas pourquoi on augmente le nombre.
Yoroso, on nous impose finalement les négociations ou quoi?
Oui, les négociations sont déjà imposées, donc on est obligé, comme les autres l'ont dit. Mm-hmm. Donc on est en position de faiblesse aujourd'hui sur le plan militaire quand même. Kidal a été un échec. L'armée malienne n'est pas à Kidal et sur une bonne partie du territoire. Donc, on est obligé quand même d'aller aux négociations. Et sur la table de négociation, c'est au gouvernement malien quand même de poser vraiment les vraies questions pour qu'on puisse sortir de cette crise. Donc comme le désarmement et le développement de ces zones. C'est les groupes armés, 2012 à maintenant, rien ne marche dans cette zone. C'est eux qui ont détruit toutes les infrastructures de base, que ce soit les hôpitaux, les écoles.
L'électricité et tout.
Ils ont tout détruit. Mmh. Quelqu'un qui veut construire un État ne détruit pas. Mmh. Mais tel n'a pas été le cas de ces gens. Et on les encourage sur cette voie. Ça ne peut pas continuer. Maintenant, c'est au gouvernement malien quand même vraiment de sortir de sa torpeur quand même pour donner une vision claire.
J'ai une question pour Yoro. Est-ce qu'on a la capacité de dire ce qu'on veut? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a levé la voix, tout le monde a vu les connaissances. Tout le monde a vu les conséquences quand on a osé hausser le ton. Est-ce qu'on est en position de dire ce qu'on veut aujourd'hui en tant que gouvernement, en tant qu'État, en tant que nation du Mali?
Ça la question.
Je crois qu'il va falloir qu'on se donne les moyens. Parce que si nous sommes une nation, nous ne sommes ou nous ne sommes pas. Il faut qu'on s'assume. Il y a un problème. Le premier problème ici, c'est quoi? C'est un travail de communication qu'il faut faire. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression comme les premiers responsables du pays, les premières autorités, eux-mêmes donnent l'impression que la défaite de Kidal, c'est la fin de l'armée, c'est la fin du tout. C'est ça le problème. Il faut que les premiers responsables de ces pays véhiculent, comment dirais-je, ces messages-là, que Kidal n'était qu'une défaite. Et moi, je suis convaincu que Kidal n'était qu'une défaite. Mais dans les rébellions au Mali, ça a commencé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Elles ne signent leur première victoire qui... comment dirais-je, en 2014. Et si cette victoire-là est synonyme d'objectif atteint, moi, je ne mesure pas la chose comme ça, puisque avant Kidal de 2014, il y a eu énormément de batailles dans lesquelles l'armée malienne est sortie victorieuse. Et ces messages-là, c'est les premiers responsables du pays qui doivent le véhiculer. C'est-à-dire que ne pas se confiner dans une position de défaitiste et faire croire que la défaite de Kidal, c'est la fin de l'armée. Non, moi, je ne suis pas de ceux-là, puisque... Pour ceux qui connaissent l'armée, comment dirais-je, contrairement à ce que certains pensent, que les militaires ont fui, oui, la bataille était rude. Et il y a eu énormément de sacrifices. Ces gens-là, il y a eu plus de 100 morts parmi les soldats maliens. Ça, ce n'est pas un acte de bravoure, ça. Moi, je pense que c'est un acte de bravoure. Donc, ces messages-là, on a besoin de rassurer aujourd'hui l'opinion. Et c'est les premiers responsables. Les gens veulent entendre ça de la bouche des premiers responsables. Et que ceux d'en face aussi comprennent que, oui, de fait, et Kidal a été une défaite et on l'assume. Mais ce n'est pas la fin du combat.
Ouais.
Nous, on s'engage, on se réarme et on reprend nos positions. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Mais on ne donne pas l'impression comme Kidal, c'est fini, c'est la défaite. Non, moi, je ne suis pas... Vraiment, il va falloir que le département, l'ensemble des responsables de ces pays change de
fusil d'épaule.
Il faut
donc faire quelque chose pour la...
De communication, il faut qu'il passe à l'offensive.
Par rapport à la démobilisation des troupes.
Bon, je ne sais pas si...
Est-ce qu'il y a quelque chose quand même, hein, des troupes?
Non, il n'y a pas,
pas de mobilisation des troupes.
Les troupes ne sont pas démobilisées.
C'est l'opinion qui est découragée un peu par rapport à tout ça.
Vraiment atteint par la défaite de Kidal. L'opinion est atteinte. Et c'est le premier responsable qui peut rassurer. C'est très important, ce travail de communication. Et vous voyez que les MNLA, c'est son terrain favori. Il a pris la communication et depuis plus de 20 ans. Le MNLA est en communication intense et il a gagné le combat de la communication.
Donc l'État doit beaucoup plus communiquer.
Si on ne communique pas, on ne gagnera pas cette guerre.
Cette guerre-là. Ouais. Puisque ce n'est pas une bande de une minorité de bandes qui va venir occuper ces pays-là comme ça. Et les gens les laissent faire. Non.
D'accord. Les intérêts sont ailleurs. Hein.
D'accord, on va observer une minute de pause, juste le temps de boire.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Damana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz. Alpharouk de Tombouctou, 98 MHz.
Isaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Le forum de la presse du studio Tamani, les sujets retenus ce vendredi, le renouvellement du mandat de la MINUSMA, l'arrestation de Mohamed Agwasdou Sène, le sommet de l'Union africaine et la hausse du prix de l'électricité pour les grands consommateurs. Nos confrères journalistes, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yorosso de l'Inter de Bamako et Youba Konaté du Zénith Balé sont nos invités. Deuxième sujet, l'arrestation de Mohamed Agwasdou Sène, ce terroriste de renom qui avait fui la prison centrale de Bamako après avoir provoqué une évasion massive. C'était le lundi 16 juin 2014. Il a été arrêté précisément à la CI 2000 par la gendarmerie et les forces spéciales. Alors, Célia, je me tourne encore vers vous. Ça fait un terroriste de moins. N'est-ce pas là une prouesse pour nos forces de sécurité?
Oui, c'est une prouesse pour nos forces de sécurité. Je pense que cette nouvelle a vraiment rassuré les populations de Bamako et tous les Maliens, parce que on s'était dit, justement, parce que on a parlé de Kidal tout à l'heure, et c'était un deuxième échec de se dire c'est pas possible que ces gens, après tout ce qu'ils aient fait, puissent s'évader comme ça. En plus, ce monsieur, il tire sur un gardien, ouais. Il le tue à bout portant, et ça aurait été vraiment très difficile qu'il puisse s'en sortir. Et je pense que l'étau s'est très très vite resserré autour de lui. La preuve, il n'a même pas pu quitter Bamako. Mmh. Je pense que pour une fois, contrairement à ce que nous pensons, cela est la preuve d'ailleurs que nos services de sécurité sont efficaces. Mmh. Et ça devrait vraiment nous rassurer tous. Maintenant, un terroriste de moins, oui, dans les rues, d'accord. Mm-hmm. Maintenant, il faudrait peut-être que ce monsieur reçoive un traitement qui décourage les autres. Mm-hmm. Et puis, l'autre question que je me pose, il est l'un de ceux qui a été arrêté, mais il y a encore une bonne dizaine, quinzaine d'autres, mm-hmm, qui sont dans la nature, qu'il va falloir récupérer. J'ai cru lire l'autre jour qu'il y en a certains qui sont déjà hors du pays. Il faudrait peut-être lancer des mandats d'arrêt internationaux. Encore une fois, se pose la question de la communication.
Parce qu'on ne sait pas si c'est le fait. Hors d'état de nuire quand même.
Hors d'état de nuire, oui. Mmh. J'espère que ce sera définitif. Parce que ce monsieur est un individu, comme vous l'avez dit, extrêmement dangereux. Mmh. Et malheureusement, il a entraîné des gens avec lui dans sa quête éperdue d'une liberté qu'il sait ne pas mériter. Et j'espère vraiment que ça va ouvrir les yeux vraiment à nos autorités. Il semble qu'il y avait eu des signaux par rapport à cette évasion-là, des signaux qui n'avaient pas été pris en compte, et qu'on va vraiment renforcer les conditions de détention de ces individus-là, parce que ce sont des gens dangereux, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils l'ont prouvé encore une fois, et qu'on puisse garantir la sécurité des gens. Imaginez que ce monsieur se soit livré à des tirs en pleine rue le jour de son évasion, ce fameux 16 juin, mmh, au niveau de Malitel, ça aurait été, ouais, un carnage. Ouais. Dieu nous en a préservés, et il faut vraiment que les conditions de sécurité soient renforcées au niveau de la prison centrale, et pourquoi pas la délocaliser, la sortir de Bamako, oui, parce que mettre des gens de cet acabit-là en plein centre-ville, c'est un peu dangereux à mon avis.
On va en reparler tout à l'heure, juste le temps de faire réagir les autres par rapport à ça. Est-ce qu'il faudrait féliciter nos forces de sécurité pour cela?
Oui, il faut les féliciter parce, oui, que après sa fuite, toute la population est restée ébahie. On ne savait pas comment le monsieur est sorti de la prison, surtout qu'il était dans une cellule appelée haute sécurité. Mm-hmm. Et s'il l'a dit, donc les signaux étaient là. Malgré les confidences de la sécurité d'État, les mesures n'ont pas été prises quand même pour sécuriser sa cellule. Mmh. Donc, quelque part, il y a une négligence. Donc, on peut dire que l'espoir est permis après Kidal et ce qui a entouré les mmh examens. Mmh. Donc, parce que tout le monde avait le profil bas après Kidal et les examens qui se sont déroulés récemment. Mais maintenant, je crois que la fibre patriotique est en train de gagner, mmh, les uns et les autres, mmh, pour dire que quand même, nos forces,
l'espoir est permis
et, mmh, que on peut compter sur nos forces malgré tout ce qui se passe.
Oui, c'est votre avis également,
Louba? Moi je crois que oui, il va falloir féliciter vraiment les forces de sécurité pour cette opération qui a été menée vraiment de main de maître. Mmh. C'était vraiment une réussite et ça a vraiment rassuré de l'efficacité de nos forces. Mais à côté de ça, il y a un autre aspect qu'il va falloir souligner. C'est-à-dire que la prison centrale de Bamako, l'entrée, c'est 500 francs, tout le monde le sait. Mmh. Et quand vous donnez 1000 francs, mon Dieu, c'est vous devenez le roi. Allez-y à 2000, imaginez 5000 francs. Mmh. Ça, c'est cette gestion de l'approximatif-là qu'il faut arrêter. Mmh. Et puis nous ne sommes pas dans un pays normal. On ne peut pas continuer à se comporter comme si de rien n'était. Nous avons des problèmes. Il y a une partie du pays qui est en guerre. Il y a des individus très dangereux qui sont en prison chez nous. Ouais. Mais tout le monde se promène comme ça, comme si de rien n'était, comme si on était dans un pays normal. Non, je suis désolé, nous ne sommes pas dans un pays normal.
Il va falloir renforcer la sécurité.
Tout le monde les comprenne et que tout le monde se comporte de cette manière. Et il y a un autre aspect que je voulais souligner, c'est l'aspect complicité de Wadoussen, qui quand même a pu quitter le marché et rester en cavale pendant presque dix jours.
Plusieurs jours quand même.
Ça pose le problème de la complicité à l'interne. Donc il y a des éléments ici actifs, très actifs, de la rébellion, très clairement. C'est ce que ça indique.
Peut-être
donc,
qu'il faudra
explorer
ce réseau. Aussi.
Son arrestation est une bonne opportunité pour comprendre tous les mécanismes qui se sont mis pour le protéger là et essayer de les démanteler aussi. Et partir aussi de cet fait-là et tirer des leçons, comprendre comment fonctionnent les complicités ici à Bamako. Il y a énormément de complicités et il faut que c'est des trucs qu'il faut arrêter.
Oui, Yoroso, son évasion de la prison centrale suscite beaucoup de questions, notamment les moyens mis à la disposition au niveau de la surveillance de nos prisons. N'est-ce pas là une autre question qui est soulevée?
Oui, on a soulevé beaucoup de questions comme la formation des surveillants des prisons et aussi les équipements dont ils disposent. Oui. Donc on a dit que les fusils qu'ils avaient entre les mains donc, n'ont même pas répondu. Donc le monsieur s'est évadé. Donc moi je ne comprends pas qu'un tel individu est dans une prison et qu'on ne donne pas les moyens nécessaires aux surveillants des prisons. Soit on les défère au camp 1 où il y a beaucoup de djihadistes qui sont là-bas, qui sont quand même bien sécurisés et quand même il ne peut pas parler d'évasion. Mais la prison centrale de Bamako, il y a une zone qui a été déclarée haute sécurité et on ne met pas les moyens à la disposition des surveillants des prisons. Vraiment, quelque part, il y a une négligence. Les moyens qu'il faut. On ne peut pas donner des armes qui n'ont pas de munitions. Mais à quoi bon? Donc, ça veut dire que leur sécurité même n'est pas assurée d'abord. Les surveillants des prisons. Voilà, malheureusement, il a succombé. Donc, ce que je dis, Wassiden est un élément dangereux. C'est un preneur d'otages. Donc aujourd'hui, il est peut-être le seul à fournir des informations peut-être aux services français qui sont en train de chercher encore Serge Lazarevitch, dont on ne sait pas s'il est en vie ou s'il n'est pas en vie. Donc c'est lui qui a capturé ces deux-là en novembre 2011.
À Ombouri.
Oui, à Ombouri. Et là, donc c'est un marché. La prise d'otage est un marché. Donc il a pris, il a revendu ces deux hommes à un groupe d'Al-Qaïda. Donc il est aujourd'hui le seul à avoir des informations. Donc on peut le prendre pour ça, pour qu'il puisse se mettre à la disposition des Français.
Oui, effectivement, à côté de ce qu'il y aura, moi je voulais préciser qu'effectivement, on ne peut pas mettre des individus dangereux dans un espace carcéral et ne pas donner les moyens de sécurité aux agents qui sont chargés de les protéger. Mais il y a l'autre aspect, c'est quoi? C'est qu'on a quand même Wadoussen a tiré avec une arme. Où est-ce qu'il a eu l'arme? C'est cette gestion approximative là d'abord, puisque les autres aspects peut-être qu'on ne peut pas les contrôler, mais ça on peut le contrôler.
On soutient quand même que le garde qui était venu pour accompagner le plombier, qu'il avait son arme déposée sur la table et il s'en est servi. Je ne sais pas si c'est ça.
Mais après ça, il y a, comment dirais-je, après la grande fouille et laquelle grande fouille a déjà, comment dirais-je, chuté. Parce que deux jours avant qu'on annonçait qu'on va aller entamer une grande fouille à la prison centrale, tous les prisonniers étaient au courant. Mais avec tout ça, on a récupéré des armes à la prison centrale de Bamako.
Oui, c'est inexplicable quand même.
Voilà, donc ça veut dire que ça, c'est un problème c'est de l'approximatif. Ça ne marche pas. Oui. Puisque quand les gardes, je suis désolé, sont là, ils prennent 500 francs et qu'ils doivent fouiller les gens pour voir s'ils n'introduisent pas d'armes ou de trucs à l'intérieur de la prison. Ils se contentent de prendre 500 000 francs et le reste, ce n'est pas leur problème. C'est ça le problème. C'est cette gestion approximative-là qu'il va falloir dénoncer et que les gens commencent à comprendre que nous vivons dans des réalités.
Le milieu carcéral serait le maillon faible de la justice finalement au Mali? Oh, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Mais,
mais votre avis là-dessus,
je
on
pense
a besoin
que certainement il y a quelque chose à faire. Cette histoire démontre qu'il y a des insuffisances et des insuffisances sérieuses sur lesquelles il faut se pencher et puis travailler. J'aime bien la phrase de Yuba qui dit qu'on n'est pas dans un pays normal. Ça reflète tout.
C'est-à-dire
vous ne pouvez pas avoir un individu qui est censé être sous haute sécurité et sortir votre âme de son fourreau, le déposer sur la table parce que vous accompagnez un plombier. Cela m'est difficile à concevoir.
Cela m'est très difficile à concevoir.
Donc je me dis, de toutes les façons, si c'est cela qui s'est passé, c'est vraiment dommage pour ce pauvre monsieur qui y a laissé sa vie. Mais ça pose le problème de la formation. Parce que si nous tous nous regardons les séries internationales, on voit comment on traite les prisonniers dangereux dans les prisons. Et ça... Nos surveillants de prison ont le droit de recevoir la formation adéquate pour pouvoir gérer de manière efficace ce genre de cas-là. Mmh. Il y a la question de la corruption, Yuba l'a évoqué. Et donc il faut voir peut-être quel est le traitement de ces surveillants de prison. Voilà, ça pose énormément de questions sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on se penche. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a aussi la question de cette prison qui se situe en plein cœur de Bamako.
Oui,
ce problème-là, il faut définitivement le résoudre parce que ce n'est pas la terre qui nous manque ici au Mali pour construire une prison, une vraie prison, hors des murs de Bamako. Cela devient impératif. Je pense que les autorités, j'imagine, ont pris la mesure de ce qui s'est passé et vont s'atteler
je
à...
Je ne sais pas, si vous permettez, madame, je ne sais pas si... Par rapport à la construction des prisons, j'ai cru comprendre qu'au Mali, on pense qu'il y a une croyance qui dit que quand vous construisez une prison, il va falloir qu'on construise des prisons.
Lever le mythe, quoi.
Il y en a d'autres. Il aurait pu aller à Koulikoro,
par exemple.
Parce que des gens de cet acabit-là, pour les sécuriser quand même, ce n'est pas en les mélangeant à des détenus de droit civil, à des gens qui ont fait des petits larcins. C'est quand même un assassin.
Ça soulève la question de gestion au niveau des prisons.
S'ils ne veulent pas construire des prisons de peur qu'un jour on se retrouve là-bas, celle de Koulikoro est déjà disponible.
Je pense que,
ce
serait bien.
Il faut penser à tout ça. Ouais. Bon, et les spécialistes, les techniciens du ministère de la Justice sont là-bas. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'ils connaissent tous ces aspects-là. Il faut qu'ils les mettent à profit. Parce que nous, on ne comprend pas. Nous sommes des citoyens
lambda. On est des profanes.
Des profanes qui regardent avec les yeux de profanes. On ne comprend pas.
Ouais.
Mais tout ce que nous savons, quand il y a des situations comme ça qui se produisent, ce n'est pas l'honneur de notre pays.
D'accord. Yorosu, votre avis là-dessus?
Oui, comme les autres l'ont dit, il faut délocaliser quand même la prison centrale, sa position entre dans un quartier populaire comme Bamako-Kroi. Mm-hmm. Et si les deux, il y avait un échange de tirs entre...
C'est ça aurait été terrible.
Ça allait être un bain de sang.
Heureusement que les militaires n'avaient pas de munitions, parce qu'ils auraient tiré.
Oui. Et ça allait être vraiment un véritable bain
de sang. La population civile était exposée suffisamment. Voilà. Oui.
Bon, malheureusement, on ne peut que regretter et présenter nos excuses, nos condoléances aux deux personnes
qui ont perdu la vie.
Voilà.
Donc maintenant, on va voir le suivi par rapport à tout cela, parce qu'on sait que Wadou Sène, il est hors d'état de nuire maintenant. Célia l'avait évoqué. Maintenant, il faut un suivi par rapport à cette sécurité-là.
Je pense que les autorités sont déjà averties par rapport à ça.
Allez-y, okay. Allez-y.
Non, je crois que les autorités sont déjà averties. Mm-hmm. Un homme averti en vaut deux.
En vaut trois même, en ce qui
concerne. Voilà. Donc, ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires quand même pour sécuriser Wadou Sène.
Mm-hmm.
Je pense qu'une deuxième chance ne
doit pas lui être offerte.
Ouais.
Absolument d'accord,
absolument,
Yoro.
Oui. Absolument.
Pour boucler ce chapitre, sa copine qui est décédée, il y a beaucoup de versions à ce propos. Vous avez des informations à propos? C'est Léa.
Moi, j'ai lu dans les sources ce matin que c'est la demoiselle qui l'a aidé, en fait, qui l'a caché et qui l'aidait là, en ce moment-là, parce qu'il était, semble-t-il, à Sébenikoro et qu'il devait quitter Sébenikoro pour essayer de sortir de Bamako parce qu'il a constaté qu'on allait l'arrêter. La preuve, c'est que son camarade Dembélé, il a fui en le lâchant. Donc, je pense que cette demoiselle, malheureusement, a choisi d'être du mauvais côté.
D'accord, on va aller en pause.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkin 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Vous êtes à l'écoute du Studio Tamani sur nos 24 radios partenaires sur le Forum de la presse avec les sujets d'actualité de la semaine. Nous abordons maintenant les deux derniers sujets, le sommet de l'Union africaine et la hausse du prix de l'électricité. Le 23e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert à Malabo en Guinée équatoriale avec comme thème central l'agriculture et la sécurité alimentaire. Mais les débats ont été dominés par la progression des groupes djihadistes. Les détails avec Issa Fakaba Sissoko.
Hier soir, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a affirmé sa profonde préoccupation face aux menaces terroristes pesant sur le continent. Devant le Conseil, Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'organisation, a souligné la gravité des nouvelles menaces que constituent le terrorisme, le grand banditisme et tous les trafics illicites. Ces menaces appellent selon lui une stratégie globale de l'Union. Le président tchadien Idriss Déby Itno, lui, a aussi estimé que l'Afrique fait face depuis peu à un ennemi de nouveau genre, plus redoutable et sans visage. Il a pointé du doigt le terrorisme qui sévit en ce moment au Nigeria et en Somalie et qui a failli, selon lui, désagréger le Mali. Le président tchadien a également insisté sur l'importance pour les États d'assurer eux-mêmes leur sécurité individuelle et collective et ne pas s'en remettre entièrement aux Occidentaux. La veille, la ministre kényane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, a espéré que le sommet de Malabo se mobilisera contre le terrorisme.
Alors, Yuba Konate du Zénith Balé, ce sommet s'achève ce vendredi. Est-ce qu'on peut attendre, on peut beaucoup attendre de ce sommet?
Bon, il faut toujours espérer, mais la réalité est tout autre. Hein. Franchement, c'est les messes de chefs d'État. Bon, la parade est beaucoup plus que la réalité. C'est quoi? On parle de. Il paraît que le sommet s'est focalisé sur deux thèmes, ouais. L'agriculture et la sécurité. Bon, l'agriculture, depuis combien de temps? Et l'Afrique, c'est que j'écoutais une émission hier dans laquelle on disait que l'Afrique est le seul continent qui ne se nourrit pas. Tous les autres continents du monde arrivent à se nourrir. Mais qu'est-ce qui se passe?
La question est posée.
Donc, c'est 2014 qu'on attend. Bon, s'il y a un sommet, c'est bien, c'est déjà une bonne amorce. On va dire, espérons qu'on aille de l'avant. Pour ce qui est de la sécurité maintenant, l'autre faiblesse aussi. Puisqu'on ne peut pas comprendre que des pays qui n'ont pas de moyens refusent de mettre en commun leurs maigres moyens pour réagir face aux menaces. Mm-hmm. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez le noyau de l'armée africaine qui doit être dirigée par l'ancien président guinéen. Là. Mm-hmm. Depuis combien de temps ça tourne? On ne voit rien. Il n'y a rien. Mm-hmm. Imaginez, madame, je vous donne un seul exemple. Mm-hmm. Si aujourd'hui on dit qu'au Mali, on a besoin d'hélicoptères, tout le monde le sait. Toute la difficulté que l'armée malienne a sur le terrain, c'est parce qu'on n'a pas d'hélicoptères, on n'a pas de moyens aériens. Mm-hmm. Mais si dans une action commune, tous les pays africains, il y a des voisins, nos voisins qui sont là, qui sont aussi menacés comme nous par la tragédie du Nord-Mali. Mais si tous ces pays voisins mettaient ne serait-ce qu'un seul hélicoptère à la disposition du Mali, prenez seulement les pays, les 15 ou 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, ça va faire 16 hélicoptères. On allait pouvoir se débrouiller avec. Il n'y a pas de grand gâchis de l'autre côté parce qu'ils ne fournissent qu'un hélicoptère. Et au résultat, on se retrouve avec 15 ou 17 hélicoptères. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'alternative à la communion, à ce qu'on mette ensemble nos moyens. Il n'y a pas d'alternative à ça. Parce que nos États pris individuellement...
Justement, à propos, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est régionale, l'autre qui est sous-régionale. Est-ce que... laquelle sera la meilleure?
C'est la tendance régionale d'abord qui commence. Mm-hmm. On commence avec la tendance régionale avant d'aller à la tendance continentale, c'est ça. Mm-hmm. Puisque c'est les sous-régions là qui vont, mettre leurs moyens en commun d'abord avant d'aller à un truc plus global. Puisque si en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, si on avait les moyens de fédérer les maigres moyens que nous avons au niveau des 15 États, mais au fini, ça va faire de gros moyens pour ouais. résoudre les problèmes. Mmh. Mais ça, cette étape-là dépassée, on peut maintenant envisager de rassembler les grands maillons, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest vient avec ses moyens, l'Afrique centrale vient avec ses moyens, l'Afrique orientale, l'Afrique australe, ainsi de suite. Et le tour est joué. Mmh. Moi, le début, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut commencer par les regroupements sous-régionaux, les renforcer et aller au-delà du verbal, du politique.
Aller des à trucs l'action.
Plus concrets, à l'action, plus mmh. concret.
D'accord. Célia, il faut une alliance régionale, selon vous?
Oui, il faut une alliance régionale. L'union fait la force. Hein. Cet adage-là, nous ne l'avons pas inventé. Hein. Oui, nous ne l'avons pas inventé. La main, elle a cinq doigts et puis c'est tous ensemble qui font une main. Alors si chacun se met dans son coin, dans son petit égoïsme de souveraineté nationale, nous avons la preuve que ça ne marche pas. Moi, ce que je voulais évoquer, c'est justement le fait qu'on est parti, par exemple, pour aller parler d'agriculture, on s'est retrouvé à parler de sécurité. Il faut que nous comprenions que ce sont justement des données qui sont liées. Si on ne parle pas de développement, si les gens meurent de faim, si la misère est là, eh bien les extrémismes de tout acabit trouvent leur terreau fertile pour nous créer des Boko Haram et des Mujahao, et etc. Ces gens-là trouvent leur terreau dans la misère humaine. Des jeunes sont prêts à aller se sacrifier pour 100 euros. 100 euros, c'est quoi ? Dans une vie. Mais si quelqu'un qui n'a pas d'horizon, qui ne voit pas ce qu'il va faire de sa vie, il est prêt à aller se sacrifier parce que vous lui dites qu'après, vous allez donner 150 000 francs à sa mère. Voilà, il faut que nos États africains comprennent que ce n'est pas en faisant de grands discours ou en allant, prenant nos avions et allant faire des sommets à Maputo, à Paris ou à Londres, que nous allons résoudre nos problèmes. Il faut que nous investissions dans le développement. Et quand nous investissons dans le développement, regardez un pays comme le Ghana qui dit aujourd'hui « FMI, merci ». Nous avons des ressources endogènes. Nous allons nous développer. Mais nous les avons, ces ressources endogènes.
Ça, c'est la gouvernance.
Nous les avons, ces ressources endogènes. Nous devons. Aujourd'hui, ce n'est même plus que nous pouvons. Hein. C'est que nous devons. Nous n'avons plus le choix de mettre ces ressources-là à la disposition de nos populations. Pour que ces gens qui, aujourd'hui, sont sans avenir, sont sans horizon et qui sont vulnérables, qui se laissent entraîner à aller mettre des bombes. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Mais c'est l'horreur absolue. Mais pourquoi ? Parce que ces gens n'ont pas d'alternative. Ils ne voient pas de quoi demain sera fait pour eux. Et si on investit dans le développement, que chaque Africain trouve au moins de quoi manger une fois par jour, quand quelqu'un va venir lui dire de sacrifier sa vie, mais il va refuser. C'est ça. C'est qu'on ne peut pas parler de sécurité sans parler de développement.
Oui.
Voilà. Et on ne peut pas aussi se dire, ouais, on va faire une force d'intervention africaine et puis on va aller demander l'argent aux Blancs. Si vous faites ça là, est-ce que MINUSMA va venir s'installer au Mali? Eh bien non, vous aurez l'opportunité de vous défendre tout seul. Et disons la vérité, ça n'arrange pas certains intérêts.
Et Rosso, votre avis sur ça, sur ce point?
D'accord, je vais revenir sur le premier thème du sommet. Mm-hmm. Donc c'est un thème qui a été déjà débattu à Maputo en 2003.
Oui.
Donc 10 ans après, ils reviennent sur ce même thème sans faire un bilan. Donc à Maputo, l'engagement avait été pris que chaque pays accorde au moins 10% de son budget à l'agriculture. Sur les 54 États, il n'y a que 5. Il y a le Mali, il y a le Mali quand
même. Récemment d'ailleurs.
Ouais. Ouais. Le Sénégal. Le Burkina, le Ghana, je crois, est un pays de l'Afrique orientale. Et ça s'arrête là. Donc, un continent qui ne peut pas se nourrir est appelé à disparaître. C'est le cas de l'Afrique. On a tous écrit ici et chanté que le Mali est le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'Afrique de l'Ouest compte combien de pays ? 16 pays. Donc, le Mali était capable de
nourrir
ses États. Donc, l'espace céréal fait à peu près plus de 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Mali n'arrive même pas à nourrir sa population avec l'office du Niger et beaucoup de plaines qui sont là.
Ouais.
Donc l'Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de terres cultivables en Afrique. Il faut qu'on s'investisse dans ça. Les Africains ne peuvent pas quitter l'Afrique ici, refuser de cultiver et aller en Europe cultiver.
Ouais.
Ça ne se comprend pas.
Ouais.
Donc par rapport à la sécurité, il est temps que les Africains comprennent que personne ne viendra faire notre sécurité à notre place. Après les attentats du 11 septembre, les Américains ont fait des sessions de formation. Il y a eu au Mali ici, entre Mali et Burkina, Sénégal et Mauritanie, il y a eu Guilimara 1 et 2.
Oui, et Pink Floyd. Oui.
Voilà. Donc c'était en prévision du terrorisme. Ils ont été formés. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Donc les États se sont restés comme ça. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une autre guerre qui n'est plus la guerre classique. Il faut qu'on réforme nos armées par rapport à ça. Vous voyez, le Nigeria, Boko Haram, qui glisse au Cameroun. Nous avons les Chebab qui quittent leur zone d'influence jusqu'au Kenya. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Et le Mali, c'est un réseau mondial qui est là.
Ouais,
donc, il peut éclater à tout moment l'Afrique de l'Ouest.
On va passer au dernier thème maintenant. Pour terminer, nous évoquons la nouvelle tarification d'EDMSA qui sera effective le 1er juillet. Elle concerne les grandes entreprises. Nous allons écouter Mokhtar Touré à propos.
La commission de régulation a fixé de nouvelles grilles tarifaires. Ceci sera en application à partir du 1er juillet. Les changements majeurs se résument ainsi tout de suite. Au niveau de la tarification moyenne tension, le tarif heure de pointe passe de 98 francs à 110 francs par kilowattheure. Le tarif heure pleine passe de 71 à 75 francs le kilowattheure. Et le tarif heure creuse passe de 48 francs à 55 francs le kilowattheure. En basse tension, c'est-à-dire au niveau des abonnés domestiques que nous sommes tous, le tarif social sera strictement réservé aux abonnés ne consommant pas plus de 100 kWh par mois.
Célia Dalmeida, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette nouvelle facturation, cette nouvelle hausse plutôt? La tarification.
Sira, ça veut dire qu'il faut se limiter désormais à une ampoule et une radio chez soi à la maison. Oui, mais parce que cette histoire me fait extrêmement peur, parce que nous sommes en train d'aller vers une inflation terrible du coût de la vie au Mali. On en parle déjà, la nourriture, vous avez vu, là, on est à 24 heures du début du mois de carême, ils ont mis 200 francs sur le prix du kilo de viande, sans que personne ne parle. Voilà.
Ah bon?
Personne n'en a rien dit. Voilà.
Ça, il y a deux jours.
Et les fruits, n'en parlons pas. Les légumes, on n'en mange même plus. On fait la sauce avec la tomate concentrée. Maintenant, l'électricité va augmenter. On nous dit que ça va toucher les grands consommateurs, les usines. Mais ces usines, les produits qu'ils font, quelqu'un les achète et vient nous les revendre. Donc ça va nous revenir plus cher. Moi qui vous vends la tomate, si je veux acheter le produit dans l'usine, il faut que je vous vende plus cher ma tomate. Ouais. Et donc forcément, ça va avoir
des répercussions. Pour compenser forcément, votre avis, tout
ça ne fait que augmenter la misère des populations. Et d'autant plus que le Mali a signé la lettre d'intention avec les FMI, il fallait s'attendre à ça. Surtout que nos gens ont échoué à Washington de plaider la cause du Mali par rapport à l'achat de l'avion et aux équipements militaires. Donc, il fallait tendre l'autre main pour augmenter les tarifs d'électricité. Malheureusement, c'est les populations qui vont faire les frais.
Ah oui, Yuba.
Oui, moi je pense que cette demande était en suspens depuis un bout de temps.
Très bien.
Mais c'est notre position de faiblesse vis-à-vis des institutions de Bretton Woods qui nous a livré. C'est clair. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire des concessions. Et c'est les concessions, c'est les pauvres qui...
Il y a une solution selon vous?
Il faut faire des économies d'énergie.
Oui, et puis en plus, madame, ce n'est pas très précis. Quand on dit que c'est les entreprises qui vont payer, après on dit qu'il ne faut pas, dans les consommations des ménages, il ne faut pas dépasser 100 kWh. Bon, 100 kWh, moi je ne comprends rien dans cette histoire.
Il faut demander aussi aux gens...
C'est une augmentation pour tout le monde.
Les gens qui laissent la clim allumée dans les bureaux, il faut qu'ils éteignent pour qu'on fasse des économies, pour que l'État puisse rembourser EDM et que EDM souffle et que nous payons. Voilà,
le message est passé. Ainsi s'achève ce forum de la presse qui avait comme invité Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yoro So de l'Inter de Bamako et Yuba Konaté du Zénith Balai qui étaient donc nos invités. Ils ont analysé pour vous les différents thèmes, à savoir le renouvellement du mandat de la MINUSMA, l'arrestation de Mohamed Agha Wadoussen, le sommet de l'Union africaine et la hausse du prix de l'électricité pour les grands consommateurs. C'était un plaisir pour nous de vous servir au micro Siraba Chili, à la technique Noum Djiré, à la réalisation Ousmane Diadé Touré. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.